Cosé Kilti, le rendez-vous des cultures en Haïti. Rezamarum Zetren sur RFI.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Cosé Kilti et bienvenue dans notre tournée estivale au Canada. Nous allons vous proposer plusieurs émissions avec la communauté haïtienne de Montréal. Et nous sommes très heureux de démarrer cette saison avec le centre Narivé qui vient d'organiser la 16e édition de la journée du livre haïtien de Montréal. C'était le 17 août dernier. Pour en discuter, nous allons accueillir Ninette Piou qui est la directrice du centre. Bonsoir Ninette Piou.
Bonsoir.
Vous êtes la directrice du centre Narivé depuis 1996, mais vous vous êtes d'abord engagée au centre comme enseignante bien avant. Dans cette émission, nous voulons vraiment revenir sur l'histoire du centre Narivé. Et c'est en 1973 que ce centre a vu le jour. Racontez-nous ce qui allait déboucher sur la création du centre Narivé.
Effectivement, le centre Narivé, donc ça veut dire l'année dernière, nous avons célébré le 50e anniversaire. Créé en 1973, par des compatriotes et des amis québécois et donc montréalais aussi, donc pour répondre aux besoins urgents donc des membres du bureau de la communauté chrétienne des Haïtiens de Montréal. Il faut dire que le centre Narivé a été le bras éducatif du bureau de la communauté chrétienne des Haïtiens de Montréal. En 1973, il y a eu donc nos cinq bâtisseurs, qu'on les appelle Paul Desjean, Wendy Soler, Lucien Smart, Molière Estainville, Carl Lévesque. Donc, ce sont ces cinq compatriotes qui ont vu la situation de citoyens de la communauté haïtienne et puis ils ont mis en place le centre Narivé. C'était pas le centre Narivé au tout début. Donc, quand ils ont commencé, c'est parce que en 1972-73, le gouvernement du Québec régularisait le statut des personnes qui avaient un visa de tourisme. Et puis, donc, toutes les personnes qui voulaient rester au pays pouvaient, sur place, faire une demande. Et des points étaient attribués pour les personnes qui maîtrisaient le français. Alors, c'est dans ce sens-là que le BCCHM, il faut dire, avait donc lancé un appel à toutes les personnes qui voulaient vraiment rester ici pour voir les aider à régulariser leur statut. Et puis, rapidement, ils se sont rendus compte qu'il y avait des personnes ne maîtrisaient pas la langue, puis ils se sont dit, alors là, on va proposer des ateliers de francisation pour permettre à ces personnes de maîtriser, d'avoir le point supplémentaire qui était attribué pour les personnes parlant français. Et rapidement, ils ont découvert que ça n'allait pas trop bien parce qu'ils avaient dit dans 2, 3, 6 mois à peu près, donc il y avait moyen de mettre à jour, de mettre à niveau ces personnes pour qu'elles puissent procéder, donc continuer la démarche. Et c'est à ce moment-là que les premiers formateurs, ces intervenants-là, se sont rendus compte qu'ils faisaient face à des personnes, en plus de ne pas maîtriser le français, mais étaient totalement analphabètes. Donc, d'où le centre Narivé a pris corps avec toujours la francisation comme outil d'intégration et puis l'alphabétisation pour permettre aux personnes de pouvoir mieux naviguer dans le système. Donc, c'est ainsi qu'on a été créé en 1973. Donc, des compatriotes qui ont fait appel à des amis français, québécois, maghrébins pour pouvoir lancer le centre Narivé.
Au début, c'était pas Narivé. Pourquoi l'appellation Narivé? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous?
Au tout début, c'était le groupe, on l'appelait le groupe d'Alpha. Et puis, donc, un soir, parce que de toute façon, nous, au centre Narivé, l'approche utilisée, c'est l'approche de Paolo Freire. Donc, alors là, les gens arrivent c'est toujours des discussions autour des discussions, des débats, des échanges, mais pour arriver à quelque chose pour permettre aux personnes d'avancer. Parce que on s'est dit, donc, on apprend l'un de l'autre. Donc, il n'y a pas de formateur qui est à un niveau et puis des étudiants. On est tous sous le même pied. C'est de façon horizontale. Alors, des échanges, des discussions, parce que chacun arrive avec son bagage et puis on essaie de voir ensemble qu'est-ce qu'il peut faire, comment on peut avancer. Et un soir, il y a eu, mais c'est pas un soir, pendant 2-3 semaines, il y a eu une discussion à savoir pourquoi nos enfants, quand ils allaient en Haïti, allaient à une école qui avait un nom. Pourquoi nos enfants ici fréquentent des écoles qui ont un nom. Alors nous, vous nous appelez, et on nous appelle classe d'alpha. Alors là, il faut que vraiment que ça change et puis qu'on ait vraiment un nom pour se dire quand on va à telle place, c'est pas on va au cours, à la classe d'alpha, on va pas au groupe d'alpha. Donc ça a démarré de cette façon-là. Donc des échanges, des discussions pendant 2-3 semaines, les formateurs, c'était tout un débat parce que ça se fait de cette façon-là, échanges, discussions. Et puis à un moment donné, il y a un qui a dit, alors là, on va appeler le groupe l'arrivée. Donc, cette personne-là réfléchissait en français. C'est pourquoi elle a dit l'arrivée. Et un autre qui disait, t'entends comment il est égoïste? Alors, il a dit l'arrivée. Ça veut dire que c'est lui qui va arriver sans nous. Et puis, un autre de se mettre debout. Alors, dans ce cas-là, ce ne sera pas l'arrivée, c'est n'arrivée. Alors, c'est la petite histoire du nom du centre d'arrivée. Et puis, alors, on a trouvé tellement ça vraiment prenant, déterminant et puis édifiant aussi. Mais c'est pour ça, donc d'où le nom, Centre d'arrivée de Montréal.
Et ça porte un message fort. Nous faisons la route ensemble. Et vous, Ninette Piou, vous n'avez pas été là au début. Et qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre le centre?
Je suis arrivée au centre d'arrivée en 1984. Alors, au mois de septembre, ça me fera 40 ans depuis que je suis au centre d'arrivée. Donc, je suis arrivée au tout début. Les activités du centre d'arrivée se déroulaient le soir. Parce que on était des étudiants, d'autres personnes qui travaillaient. Et puis, c'est le soir, c'était une façon de redonner à la communauté. Alors, c'était tous des bénévoles qui venaient au centre pour vraiment s'impliquer dans le travail de conscientisation, d'alphabétisation et de francisation. Donc, des personnes peu ou pas alphabétisées. Je suis arrivée en 1984 au centre. Tout d'abord, c'est parce que c'est par le biais, c'est mon frère, Ferné, qui voyait parce que j'étais chez lui à Montréal et puis il disait, il sentait que j'étais vraiment un petit peu, il me manquait quelque chose, quoi. Parce que avant d'arriver ici à Montréal, j'avais créé en Haïti, donc le collège Notre-Dame de la Nativité à Dame-Marie. Je viens du plus beau coin d'Haïti, Dame-Marie. Et puis le collège existe toujours. Et puis, donc je sentais qu'il fallait que je fasse quelque chose. En plus du travail, en plus des études, il fallait apporter, me mettre à contribution. Il me dit, alors là, comme toi en Haïti, tu avais déjà étudié dans l'enseignement et maintenant tu es en administration, alors pourquoi ne pas aller prêter main forte à la communauté haïtienne parce qu'il y a le centre d'arrivée qui propose des ateliers d'alphabétisation le soir. Et puis, je l'ai écouté. Puis c'est comme ça, en septembre 1984, je suis arrivée au centre d'arrivée. Donc à ce moment, le centre et offrait les cours, ce qu'on appelait le Kofi Oliva Rasselin, qui était au coin de Saint-Michel, boulevard Saint-Joseph. Alors, c'est là qu'on y allait 3 soirs semaine, et puis pour participer, partager nos connaissances, nos compétences avec les participants qui étaient en alphabétisation. C'est comme ça que je suis arrivée.
J'imagine que vous avez été très dynamique au centre puisque vous n'avez pas pris beaucoup de temps pour devenir la directrice du centre.
Ah, donc au centre d'arrivée, je suis arrivée en 84 et puis j'ai intégré le conseil d'administration en 86. Et puis comme je disais, donc c'était vraiment fait de façon bénévole, j'étais responsable du développement, on va dire du développement des affaires, du développement du centre. Alors j'étais la personne qui était appelée à aller chercher le financement, à faire du développement pour que les activités puissent se développer. Alors, j'ai intégré le conseil d'administration en 86. Puis de 86 à 90, alors là, j'ai vraiment développé, proposé. Et donc, à ce moment-là, j'ai laissé mon travail. En 90, j'ai dit, alors, si on veut donner un essor, un coup de barre au centre d'arrivée, il va falloir que les activités n'aient lieu non seulement le soir, mais aussi le jour. Et puis, en 90, nous avons initié les activités d'alphabétisation le jour. Donc, au début, c'était ça. Et puis, de 90 à 93, alors je dis, donc, en 90, il y a eu une grande récession. Beaucoup de participantes qui étaient en alphabétisation ont perdu leur emploi. Et puis, donc, on voyait comment elles étaient affectées parce qu'ils disent, alors là, nous, on doit travailler pour envoyer de l'argent au pays. Alors, si on ne travaille pas, le chômage n'est pas suffisant. Il faut qu'on ait un métier pour pouvoir reprendre le marché, réinsérer le marché du travail. Alors, c'est ainsi que nous avions, donc, de 90 à 93, j'ai passé 3 ans à défendre le projet de développement, le volet secteur socio-professionnel au centre d'arrivée. J'ai dit, c'est vrai, c'est des personnes qui ne sont pas d'une grande scolarité, mais c'est des personnes qui ont les compétences, les capacités, qui peuvent apprendre. Alors, on va les outiller. Comment? en faisant, en ouvrant le secteur socioprofessionnel. Nous avons commencé avec les activités de couture. Alors, c'était financé par la commission scolaire. Puis après, on voulait permettre à ces femmes de devenir des opératrices de machines à coude. Mais il y en a d'autres qui disent, mais c'est pas la couture qui nous intéresse, il y a autre chose qui nous intéresse, la cuisine. Et puis, donc, c'est dans ce cas-là, dans le cadre d'un congrès du centre, parce que autrefois, en 93-94, le centre n'arrivait, on tenait des congrès, donc des assemblées de fin de semaine, ça durait 3 jours. Et puis c'est en 93 qu'on a pu démarrer le secteur socioprofessionnel avec le cours, l'atelier, le plateau de cuisine. Et puis, l'année d'après, on a ajouté le plateau de couture, et ainsi de suite. Donc, jusqu'à aujourd'hui, alors, nous avons le plateau de cuisine, couture et service à la clientèle. Alors, ça a été de cette façon-là que le centre n'arrivait. Donc, alors, je continue à m'investir pour développer. Et puis, par la suite, il y a eu les activités pour les jeunes. En 97, nous avons commencé avec les activités pour les jeunes, donc le secteur à tout jeune, qui aujourd'hui, donc actuellement, on a ça comprend deux volets. On a à tout jeune, donc c'est une formation qui se donne en ligne où les jeunes peuvent suivre des formations, des modules de formation en assistance administrative, comptabilité, donc gestion des médias sociaux et donc vidéographie, photographie. Et puis on a aussi le volet rattrapage scolaire, donc à la suite des difficultés qui sont survenues l'année dernière avec la grève, à la suite de la grève des enseignants, nous offrons aussi le rattrapage scolaire, donc en proposant aux jeunes des trucs et astuces pour réussir les mathématiques et le français. Mais en plus des jeunes, nous avons aussi le secteur aîné, donc le rond-point des aînés. Donc, dans le cadre de l'année internationale des aînés, nous avons dit, donc les premières personnes qui ont participé aux activités du centre ont vieilli. Parce que quand elles étaient arrivées ici, c'était vraiment pour garder leurs enfants, pour aller travailler. Maintenant, elles ont vieilli, 70 ans et plus. Alors, nous avons ouvert le programme, ça s'appelait dans un premier temps Mots et Merveilles. Alors maintenant, on l'a transformé en rond-point des aînés. Donc, c'est une sorte de camp de jour où les aînés viennent 2 jours par semaine, les lundis et les mercredis, en plus d'autres moments où il y a des activités propres qui leur sont destinées. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, cette année, j'ai dit, ça fait 40 ans que je suis au centre d'arrivée bientôt. Ça va faire aussi 40 ans que le centre d'arrivée a le volet, il y avait le secteur créole, langue créole et culture haïtienne, donc qui, après 40 ans, on s'est dit, après 40 ans d'intervention, après 40 ans d'accompagnement, après 40 ans de promotion de la langue et de la culture haïtienne, alors le comité créole qu'on avait créé dans le secteur est devenu, le 10 mai dernier, l'Institut créole et du patrimoine culturel haïtien.
Parfait. On voit que vous organisez beaucoup d'activités, beaucoup de projets sur et de longues années. Et je constate aussi que vous évoluez à travers le temps. Au début, vous avez eu des cours de cuisine et autres, de couture. Maintenant, vous êtes dans les médias sociaux, c'est-à-dire que vous adaptez vos contenus avec les évolutions du temps. Et puis, si on résume un peu, les trois piliers, c'est l'alphabétisation, la francisation et puis l'insertion socio-professionnelle. Et ils sont beaucoup, ces jeunes ou les gens qui viennent au centre, ils viennent d'où exactement? Est-ce que ce sont surtout des Haïtiens?
Au tout début, c'était vraiment des membres de la communauté haïtienne pour l'alphabétisation. Mais quand on parle de francisation, donc comme je le disais au tout début, donc il y avait les membres de la communauté haïtienne. Mais on est ouvert sur Montréal, et puis Montréal est une ville multiethnique. Alors, il nous arrive d'avoir à peu près 20, 21 communautés différentes dans nos activités. Donc, que ce soit de l'alphabétisation, la francisation, donc le programme de l'insertion sociale professionnelle, et puis le programme des aînés, les jeunes. Alors, c'est des gens de partout qu'on nous accueillons dans nos activités. Alors, ce n'est plus strictement. Au tout début, oui, c'était la communauté haïtienne, mais il y a toujours eu on a toujours été multi-ethnique parce que le corps professeur, on va dire le corps enseignant qu'on avait au tout début n'était pas seulement des Haïtiens. Il y avait des Québécois, des Français, des Maghrébins, et puis les étudiants, les participants, c'était des Haïtiens. Et puis là, maintenant, on a toujours cette multi-ethnicité-là, que ce soit pour l'ensemble du personnel, aussi bien que pour les participants à nos activités.
Et la journée du livre haïtien, vous avez organisé la première édition en 2008. Racontez-nous comment cette journée, cette activité allait prendre naissance.
2008, donc on va dire 1973-2008, ça faisait 35 ans. Alors on s'est dit, donc nous, notre majeur, notre force, c'est vraiment c'est l'éducation, c'est la lecture, c'est l'écriture. Alors comment faire en sorte qu'il y ait une mixité sociale pour que tout le monde se sente vraiment concerné, interpellé par le centenarivé? Parce que nous avons dit il faut que personne ne soit laissé de côté. Alors comment amener les personnes de faible scolarité à aimer la lecture, à découvrir la lecture, à prendre plaisir pour la lecture et l'écriture? Et donc, on s'est dit pour le 35e, il va falloir qu'on donne un coup de barre. Donc, c'est à ce moment-là que nous est venue l'idée de dire, alors, dans la communauté haïtienne, il y a beaucoup d'auteurs haïtiens. Beaucoup de, il y avait des maisons d'édition aussi, donc le syndicat et Mémoire d'Encrier. Puis on s'est dit, alors, on va interpeller ce beau monde-là pour voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour mettre la lecture en valeur, sans exclure les participants du centre. Et puis on s'est dit, on va chercher, on va faire appel aux auteurs les plus connus et les moins connus, qui vont pouvoir rencontrer donc les gens de tous les milieux, les faibles lecteurs et les grands lecteurs. Alors c'est de cette façon, on s'est dit, alors pour que la lecture reste vraiment le centre du centre d'arrivée, reste le moteur, alors c'est dans ce sens-là, que cet esprit qu'on a créé la première édition de la journée du livre haïtien. Et puis cette année, nous avons vécu la 16e édition.
J'ai vu votre sourire en parlant de ça, ça explique tout votre enthousiasme à organiser et cette activité. Je l'ai vu aussi samedi dernier sur le visage de tout le monde, que ce soit les membres organisateurs qui sont dans le centre ou les participants. C'était une très, très belle activité. Et en fait, je voudrais savoir pourquoi cette journée du livre est-elle importante pour le centre?
Importante pour deux choses. Parce qu'on se dit, donc, la lecture, l'écriture pour nous est primordiale. Et puis aussi, on s'est dit, pour qu'on reste attaché aussi à Haïti. Et donc, la meilleure façon de faire découvrir Haïti, de promouvoir Haïti, c'est à travers sa culture. Et nous, comme on est déjà dans le monde de l'éducation, alors le côté de la littérature nous a intéressés. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on s'est dit, alors, il faut faire quelque chose pour que Haïti demeure vivante et puis pour que les Montréalais, les Québécois, les Canadiens puissent savoir que Haïti n'est pas seulement ce qu'on voit à la télé, ce qu'on raconte dans les médias. Haïti est beaucoup plus que ça. Haïti, c'est une terre riche, riche par ses auteurs, riche par ses enfants, riche par tout ce qu'elle a apporté et peut encore continuer à apporter au monde.
Le thème de cette édition, c'est tendresse et nostalgie. C'est quoi le message que vous voulez faire passer à travers ce thème?
Moi, je dis, Haïti est tellement malmené ces dernières années. Et des fois, on se questionne, on se dit, mais ce pays a besoin d'un peu de tendresse de ses enfants, un peu d'amour de ses enfants. Et puis, c'est aussi un moment de faire un rappel pour dire qu'on n'a jamais été ainsi depuis notre création. Il y a eu de beaux moments. Haïti a aidé énormément de pays. Et puis, aujourd'hui, on se retrouve dans une telle situation et puis on n'arrive pas toujours à trouver la porte de sortie. Alors, c'est pourquoi donc on dit un peu de nostalgie. Parce que quand on se rappelle nos ancêtres 1804, tout ce qu'on a fait de grand, de beau, et puis aujourd'hui on se retrouve ainsi. Et puis donc il faut dire aussi, là, quand on regarde l'affiche, l'année dernière c'était Haïti passion. Cette année on a dit Haïti tendresse et nostalgie. Donc c'était une femme qui était couchée. Cette année elle est assise parce qu'il y a une perspective que Haïti puisse se mettre debout. Alors l'année prochaine, cette femme-là sera debout et puis Haïti sera debout. C'est dans ce sens-là.
Parfait. Et cette édition a mis le focus sur René Dépestre et Louis-Philippe d'Alembert. J'aimerais savoir pourquoi ces deux-là ensemble.
C'était pour faire un clin d'œil à ces deux-là. On sait, quand on dit le parcours, quand on regarde le parcours de René Dépestre, tout ce qu'il a vécu, tout ça, c'est par amour pour Haïti. Donc, moi, il dit, donc, Haïti a martyrisé beaucoup de ses enfants. Alors, René Dépestre en est un. Et puis, il va avoir 98 ans bientôt. On s'est dit, alors, pour marquer ce passage-là, on va le souligner. Et D'Alembert, c'est un jeune qui est proche de René Dépestre. Et puis, il a, pour l'ensemble de ses œuvres, il a eu le prix Goncourt. C'est une façon aussi de dire aux Haïtiens, de dire au monde que Haïti produit de ses perles. Alors, Haïti, c'est de la perle des Antilles, mais ses enfants continuent à être des perles partout où ils passent. Alors, il va avoir des perles qu'on va pouvoir en trouver. Alors, ces deux-là, ce sont deux perles mises ensemble qu'on a voulu vraiment présenter au monde, présenter au Québec, parce qu'on est au Québec, présenter au Québec, à Montréal, et surtout un rappel à nos frères et sœurs d'Haïti pour leur dire, alors là, on est toujours ensemble avec eux et on sait que des perles vont toujours surgir. Alors maintenant, on patauge. Alors là, les perles, on finira par les trouver et Haïti, où on est là.
Vous avez fait un clin d'œil aussi à Thomas Madiou.
Ah oui, Thomas Madiou. Quand on regarde Haïti, pour qu'on puisse aimer ce pays, il faut connaître son histoire. Et Thomas Madiou, quand on lit les 9 tomes de Thomas Madiou, tout Haïtien doivent se dire, alors on devient des êtres beaucoup plus conséquents, on devient des êtres debout, alors on sait ce qu'on a vécu, alors là, ce qu'on vit actuellement ne peut pas nous détruire. Alors il y a moyen pour nous d'être ce que nous sommes appelés à être, parce que là, jusqu'à présent, on n'a pas encore façonné dans ce pays-là. Donc, ce pays qui est plein de potentiel, un pays qui est riche de ressources humaines. Alors, si toutes ces ressources humaines étaient modelées, façonnées, alors notre pays retrouverait son sens et son essence.
La programmation a été très riche. Il y avait des tables rondes, de la musique tout à la fin. Il y avait Dany Laferrière, Audenay Saint-Éloi et beaucoup d'autres personnalités du monde littéraire haïtien qui étaient présents. Et quel bilan faites-vous de cette 16e édition de la Journée du livre haïtien?
Alors là, on peut dire on va en crescendo. Parce que quand on regarde quand on a commencé en 2008 à aujourd'hui, c'est vraiment chaque année, ça prend beaucoup plus d'ampleur. Et puis, ce qui nous a ravis cette année, on sait que dans les 15 premières années, nous avons des fidèles qui viennent de façon régulière. Mais 15 ans plus tard, ces fidèles commencent à vieillir. Et puis maintenant, on voit le renouvellement des personnes qui viennent vivre ce moment-là avec nous. Alors, on s'est dit, alors c'est la 16e édition, on a encore pour 15-20 ans. Parce que quand on voit des jeunes de 30, 35, 40 ans qui arrivent, et puis, donc ça veut dire, la journée du livre est là pour rester et elle va pouvoir rester longtemps parce que la relève prend corps, la relève prend forme, la relève prend racine. Donc, la journée du livre s'ancre davantage de la communauté. Donc, ça veut dire, cette année, l'année dernière, on a vu arriver donc, une certaine quantité de jeunes. Mais cette année, elle était encore beaucoup plus nombreuse. Alors, c'est ce qui nous réjouit. Et c'est pourquoi, donc, on veut dire, et puis avec la jeune génération aussi qui est présente au centre, parce que là, moi, je suis sur la porte le chemin du départ. Alors, avec la jeune génération qui arrive, alors, on va pouvoir aller chercher ces nouvelles personnes pour que la journée du livre puisse continuer à fleurir et puis Haïti puisse continuer à rayonner. Alors, parce que notre vraiment rêve, c'est de positionner la littérature haïtienne à Montréal.
Et quand on vient à la journée, on voit qu'il n'y a pas que des Haïtiens.
Ah non, c'est ouvert à tout le monde, c'est ouvert à tout le monde. On va chercher tout le monde et puis donc c'est connu. Alors là, on met le paquet pour que tout le monde puisse. C'est comme pour le centre d'arrivée, on n'est pas un centre strictement pour les Haïtiens. On est un centre ouvert. Donc la journée, même si ça porte le nom, la journée du livre haïtien, des fois ils disent mais pourquoi ne pas dire journée du livre? Non, c'est la journée du livre haïtien. Mais alors on vient découvrir les Haïtiens. Alors c'est ouvert à tous.
Pour retrouver le centre d'arrivée, vous avez un site internet centrenarrivee.com et vous êtes aussi joignable sur les réseaux sociaux. Vraiment, avant de venir ici, je vous ai trouvé sur Facebook.
Ben oui, ben oui. Alors là, on se dit donc le meilleur outil de communication maintenant, ce sont les médias sociaux. Alors c'est pour ça, on est un petit peu partout. Et on essaie donc pareil à Facebook, Instagram, même si moi je ne suis pas une mordue de tout ça. Mais on essaie pour rejoindre le plus de monde possible, alors quel que soit le pays où se trouvent les personnes, parce que là, je me dis, les personnes qui n'ont pas pu participer à la journée du livre, à la 16e édition, pourront vivre certains moments intéressants. Et donc, quel que soit le pays où on se trouve, on va pouvoir visualiser tout ça, et puis aller de l'avant, et puis non dire, encourager la littérature haïtienne, encourager les auteurs haïtiens, encourager Haïti.
Ninette Piou, merci beaucoup, c'était un plaisir.
Ça m'a fait plaisir aussi. Merci d'avoir pris le temps de nous permettre de partager avec ton émission, donc le Centre Narrivé et ses activités.
C'est toi mon seul paradis, Haïti. Ah, je me rappelle tes forêts si belles, tes grands horizons. Loin de tes rivages, la plus belle cage n'est qu'une prison. Oui. Mon cri d'amour, Haïti, c'est de te revenir un jour. Au beau pays bleu, bien loin sous d'autres cieux, je vivais des jours heureux, mais tout est fini seul dans mon exil aujourd'hui.
Je me suis rendu compte que ça fait longtemps qu'on n'a pas écouté Cécile McLaurin Salvant ensemble à l'émission Cause Equity. C'est pourquoi je me suis fait le plaisir de vous faire plaisir à travers cette première émission de notre tournée à Montréal. J'espère que vous avez vraiment aimé écouter Cécile McLaurin Salvant à travers la chanson Haïti. Merci à chacun de vous d'avoir suivi cette émission. C'est notre première dans le cadre de notre tournée à Montréal cette année. Merci à notre réalisateur Stéphane Chéry. Merci à l'Institut français en Haïti, l'ambassade de France en Haïti et l'Organisation internationale de la francophonie OIF qui soutiennent cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter ce programme en podcast sur le site www.rfi.fr, mais aussi sur l'application RFI Pure Radio. que vous pouvez installer sur votre smartphone. Écoutez également l'actualité générale en Haïti. Ça se passe du lundi au vendredi à 9h10 dans le journal d'Haïti et des Amériques avec Anne Kantner. Moi-même, je suis Rizamarom Zetren. J'ai pris énormément de plaisir à vous combler de bonheur et de bonne humeur. On se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à bientôt.